VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 7 janvier 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, la CENI annonce le report de la publication des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier.
Au Nigeria, arrestation de deux journalistes à Maïdougouri en rapport avec des articles sur Boko Haram.
Le conseiller en matière de sécurité nationale du président Donald Trump assure qu'il n'y aura pas de retrait précipité des troupes américaines en Syrie.
Discussion commerciale aujourd'hui à Pékin entre négociateurs américains et chinois.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, report de la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier. Ce report a été annoncé hier à Kinshasa par la Commission électorale nationale indépendante. Des détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes à 53% de compilation des résultats. Le travail n'est pas terminé. Impossible donc d'annoncer les résultats ce dimanche comme prévu a annoncé le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga a maintenu davantage le flou en affirmant ne pas pouvoir dire quand les résultats provisoires seront disponibles. Peuple congolais, soyez calme. J'entends dire par chacun des camps qu'ils sont en tête, mais cela n'a aucune valeur car seule la CENI peut publier les résultats. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner les vrais résultats. Le peuple sera content d'avoir ce résultat, a par ailleurs précisé puis promis le président de la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nanga, qui annonce également être l'objet des menaces nationales et internationales, déclare qu'il n'acceptera aucune menace et demande de laisser le travail de la CENI se faire en toute indépendance. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
A signalé aussi que le comité laïque de coordination a publié un communiqué en appui à la déclaration de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, dont le secrétaire général a, dans un rapport, précisé que les données issues des procès-verbaux de vote consacrent le choix d'un candidat comme président de la République. L'identité de ce candidat élu n'a pas été dévoilée, encore moins le pourcentage obtenu par chacun des candidats. Le CLC dit s'étonner de la réaction, je cite, « agressive et injustifiée de la CENI et du FCC », la jugeant plus que suspecte. Il ajoute « la centrale électorale et le FCC font dire à cette déclaration ce qu'elle ne dit pas ». En conclusion, le comité laïque de coordination encourage la CENCO à ne pas céder au chantage et aux intimidations et appelle le peuple congolais à demeurer plus que jamais vigilant et à se méfier, citation encore, des pyromanes qui se font passer pour des sapeurs-pompiers. Fin de citation.
Ajoutons que selon notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, la police dans cette ville procède à la récupération des pneus auprès des réparateurs appelés Quado. Elle a aussi établi depuis une semaine des checkpoints affectant piétons et véhicules. Narval Mabila n'a pas précisé les raisons avancées pour expliquer de telles mesures.
Au Nigeria, les forces de sécurité ont arrêté hier deux journalistes et saisi leurs ordinateurs portables et téléphones à Maïdougouri, dans le nord-est, pour des articles sur l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Des sources au sein de leur rédaction ont également évoqué des descentes de soldats armés dans les bureaux de leur journal, le Daily Trust, à Abuja et à Lagos. Ce raid serait une réponse à un article racontant les préparatifs de l'armée pour reprendre la ville de Baga, dont Boko Haram s'est emparé la semaine dernière dans le nord-est, a dit une des sources. Pas de commentaire dans l'immédiat, côté autorité militaire.
En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi a inauguré hier soir une gigantesque cathédrale près du Caire à l'occasion du Noël copte, et ce sous haute sécurité au lendemain de la découverte près d'une église d'un engin explosif qui a tué un policier. Aux côtés du pape copte orthodoxe Tawadros II, le président Sissi a déclaré que le pays vivait un moment important de son histoire. Les coptes d'Égypte sont dans le collimateur depuis 2016 du groupe État islamique qui a revendiqué plusieurs attaques meurtrières contre cette communauté chrétienne.
Au Soudan, des partisans du président Omar al-Bashir prévoient de tenir mercredi un rassemblement pro-régime dans la capitale Khartoum, alors que la police a dispersé dimanche à coups de gaz lacrymogène des manifestations antigouvernementales dans plusieurs villes du pays. Le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation déclenché par la hausse du prix du pain et les pénuries dans un pays en plein marasme économique. Les protestations se sont vite transformées en un mouvement contre le régime de M. Béchir, qui s'est emparé du pouvoir par un coup d'État en 1989. Au moins 19 personnes ont été tuées selon les autorités et 37 selon Amnesty International.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le conseiller en matière de sécurité nationale du président Donald Trump, John Bolton, a affirmé hier à Jérusalem que le retrait américain de Syrie devait se faire de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis de Washington dans la région soit absolument assurée. Des détails avec Jean-Roger Bion.
En visite en Israël depuis samedi, M. Bolton a annoncé que les États-Unis souhaitaient que la Turquie garantisse la protection des Kurdes en Syrie, selon la chaîne de télévision américaine NBC News. Nous allons discuter de la décision du président Donald Trump sur le retrait, mais il faut faire cela de telle sorte que l'organisation de l'État islamique soit défaite et que la défense d'Israël et d'autres amis dans la région soit absolument assurée, a affirmé M. Bolton aux médias à l'occasion d'entretien avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. M. Bolton a également souligné que le retrait militaire américain de Syrie annoncé le mois dernier par le président Trump tiendra également compte de ceux qui ont combattu avec nous contre l'organisation de l'État islamique et d'autres groupes terroristes. Le conseiller du président Trump avait auparavant affirmé que des conditions devaient être réunies avant le retrait des troupes américaines de Syrie, telles que la sécurité de leurs alliés kurdes. Jusqu'ici alliés de Washington dans la lutte contre les djihadistes, les combattants kurdes en Syrie craignent que le retrait américain ne les laisse démunis face à la Turquie.
Des responsables militaires américains ont confirmé la mort dans une frappe aérienne la semaine dernière au Yémen de Jamal al-Badawi, un des cerveaux présumés de l'attentat contre le USS Cole qui avait coûté la vie à 17 marins américains en 2000. Dans un tweet hier, le président Donald Trump a déclaré que l'armée américaine a rendu justice aux héros tués et blessés dans la lâche attaque contre le USS Cole. Il a assuré que la lutte des États-Unis contre Al-Qaïda se poursuivra.
Concernant toujours le Yémen, des négociations sur l'économie de ce pays en grande difficulté pourraient se tenir dans la capitale jordanienne Amman. C'est ce qu'a déclaré dimanche Mohamed Ali Al-Houthi, chef du Conseil supérieur révolutionnaire des rebelles, après des entretiens avec l'émissaire spécial de l'ONU, Martin Griffiths. Ces pourparlers devraient porter notamment sur l'effondrement de l'économie yéménite en raison de la guerre. Un mois après les pourparlers inter-yéménites en Suède, les premiers depuis 2016, l'ONU peine à faire appliquer une série d'accords sur le terrain, ce qui fragilise le processus de paix.
Discussion ce matin à Pékin entre négociateurs américains et chinois pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux premières économies du monde. Chinois et américains restent très discrets sur le déroulement des discussions dont le lieu n'a même pas été révélé. Pékin a simplement précisé vendredi qu'elles auraient lieu lundi et mardi. Elles sont les premières à mettre face à face des négociateurs des deux pays depuis que le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping sont convenus début décembre en Argentine de se donner un délai de 3 mois jusqu'à début mars pour tenter de mettre fin à leur affrontement à coups de droits de douane.
Encore une semaine qui commence à Washington sans une solution au shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Le président Trump a souligné que les centaines de milliers d'employés fédéraux affectés et qui risquent de ne pas être payés cette semaine devront faire des ajustements car il n'est pas prêt à céder. M. Trump réclame plus de 5 milliards de dollars pour le mur qu'il veut construire à la frontière avec le Mexique et pour lutter contre l'immigration illégale, ce à quoi s'opposent les démocrates.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Les banques de la CEMAC ont déboursé au premier semestre 2018 plus de 4 500 milliards de francs CFA pour financer l'économie sous-régionale. Au Cameroun, les grandes entreprises constituent plus de 73% du portefeuille des bénéficiaires et les petites et moyennes entreprises n'ont reçu que 14% de cette enveloppe. Le magazine américain Forbes indique dans son classement que l'île Maurice est le meilleur pays africain pour faire des affaires en 2019. Ce pays occupe le 39e rang dans ce classement qui évalue 161 pays. Forbes se fonde sur le droit de propriété, l'innovation, les taxes, la corruption, la liberté, la bureaucratie et la protection des investisseurs, la disponibilité de la main-d'œuvre, les infrastructures, la taille du marché et la qualité de vie. L'Afrique du Sud occupe la deuxième marche du podium à l'échelle continentale devant le Maroc, les Seychelles, la Tunisie, le Botswana, le Rwanda, le Kenya et le Ghana. L'Égypte ferme le top 10 africain. Aux États-Unis, les créations d'emplois ont bondi à leur plus haut niveau depuis février à 312 000 et l'économie a attiré davantage de travailleurs. Le secteur du bâtiment a nettement rebondi en décembre et les services publics ont aussi davantage embauché. Selon les chiffres officiels du ministère du Travail, il y a un an, le taux de chômage était de 4,1%. Le nombre total de chômeurs s'inscrit à 6,3 millions et les emplois à temps partiel restent nombreux à 4,7 millions.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
C'est demain, mardi, que la cérémonie des CAF Awards aura lieu à Dakar, au Sénégal.
Oui, avec comme invité le président de la FIFA, Gianni Infantino. À cet effet, le joueur africain de l'année sera connu et ça va se jouer entre Mohamed Salah, Sadio Mané et Pierre-Emerick Aubameyang. A noter que dans cette optique, la Confédération africaine de football a organisé ce lundi un match de gala entre la sélection sénégalaise de 2002, quart de finaliste au Mondial Japon-Corée, et les légendes de la CAF en hommage à Jules François Bokandé. Précisons que mercredi prochain, Ahmad Ahmad, le président de la CAF, dévoilera le nom du prochain pays qui va abriter la CAN 2019 retirée au Cameroun. Ce sera entre l'Afrique du Sud et l'Égypte.
Élisée, après l'étape sénégalaise, le président de la FIFA et de la CAF vont se rendre au Bénin.
Effectivement, Idrissa, Gianni Infantino et Ahmad Ahmad seront à Cotonou le mercredi prochain pour signer un mémorandum d'entente FIFA, FBF et gouvernement béninois sur le sport, notamment le football à l'école. Ensuite, la délégation se rendra à Porte-Nouveau au siège de la Fédération béninoise de football afin de discuter de l'état actuel de cette discipline dans le pays de Stéphane Séséillon. D'autres points seront abordés, notamment un protocole d'accord pour faire bénéficier au pays d'autres projets FIFA.
On reste au Bénin pour faire le point de la 10e journée de la Ligue 1.
Et Buffalo conforte sa place de leader grâce à son succès 2-0 à UPIB ONM. Victoire en déplacement aussi pour Aspac. Second classement à Porte-Nouveau 2-1 devant les Dragons de Lomé. En revanche, nul 1-1 entre Tonnerre de Boïcon et Béké FC de Bébéréké. Même score entre Avrancou Omnisport et Panthère de Djougou. Pour les autres résultats, bonne opération d'Assos vainqueur 2-0 à Usaé, de même pour Ayema à Soleil. Et puis, énergie toujours à la peine. Les électriciens en quête de victoire depuis 4 journées ont concédé le nul 0-0 à domicile contre AS Police.
Quatrième journée en Guinée, le Oréa domine la SAG et creuse l'écart.
Le club de Matam a battu la Chantilly de Sigiri sur le score de 3-1 et signe sa quatrième victoire en autant de matchs. C'est la seule équipe qui a gagné tous ses matchs depuis le début de cette saison. Pour le reste, notons entre autres la large victoire 4-1 du Afia face à Felostar et le 0-0 de Wakria devant le club olympique de Koya.
Dixième journée au Maroc et le WAC s'offre le derby de Casablanca.
L'équipe entraînée par Faouzi Benzati, déjà leader avant d'affronter son voisin le Raja, a remporté la victoire grâce à un but de Métragi à 10 minutes de la fin du match. Et puis derby également du côté de la Tunisie. Match en retard de la 11e journée et l'Espérance de Tunis a battu le club africain 2-1, mettant ainsi fin à la série de victoires de son voisin.
Au Mali, le championnat va enfin reprendre.
Oui, après 14 mois d'interruption, ce à partir de ce mois de janvier, comme l'a indiqué le comité de normalisation de la Fédération malienne de football. football. Le championnat avait été interrompu en pleine compétition en novembre 2017 lors de la 13e journée en raison de la crise traversée par le football malien. Et puis, du basketball, la NBA avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Brooklyn et Chicago 117-100, Minnesota et LA Lakers 108-86, et les Clippers et Orlando 106-96, Atlanta et Miami 106-82, Washington et Oklahoma City 116-98, Toronto et Indiana 121-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pays riche, Congolais pauvres, au vu des richesses de son sous-sol, la République démocratique du Congo pourrait être considérée comme la nation la plus riche du monde. Cependant, le peuple congolais vit dans une grande pauvreté. C'est sur ce paradoxe que Raissa Gironda a joint Freddy Matungulu, ancien ministre de l'économie et des finances de la RDC, pour une analyse.
Vous savez que le Congo a pendant longtemps, depuis l'époque coloniale, été appelé scandale géologique. C'est un pays qui est extrêmement riche en ressources naturelles. Il ne revient que les estimations faites de ce potentiel les situent à autour de 24 000 milliards de dollars américains. Donc c'est considérable. Malheureusement, tout le monde déplore ce contraste entre les potentialités en termes de ressources naturelles et les conditions de vie des populations.
Effectivement, 8 Congolais sur 10 vivent toujours avec moins d'un dollar par jour. Alors comment on peut expliquer ce paradoxe?
Il y a quelques grands facteurs qui explique cette situation. D'abord, la mauvaise gouvernance économique et politique qui maintient ce pays depuis l'indépendance parmi les nations, je dirais, parias dans le monde, et qui ne sont pas considérées par les investisseurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. La conséquence est qu'il est difficile d'enclencher un processus fort de création d'emplois, d'investissement et de création d'emplois et d'opportunités nouvelles de revenus pour nos populations. Alors, il faut ajouter aussi à cela la corruption et le détournement des ressources publiques fait que la croissance est accaparée par ces équipes dirigeantes et très peu de tout cela, malheureusement, retombe au niveau du Congolais moyen. Il faut ajouter à ça aussi l'absence de diversification de l'économie. Aujourd'hui, l'économie nationale est tirée pour l'essentiel par le secteur minier. Et c'est un secteur qui ne génère pas beaucoup d'emplois, malheureusement. Et donc, la conséquence est que parfois, même quand on a des taux de croissance extrêmement élevés, tout cela ne se traduit pas par des créations d'emplois et donc des nouvelles opportunités de revenus pour les populations.
Mais il y a aussi les groupes armés aussi qui empêchent une bonne redistribution de ces richesses.
Évidemment, vous savez, toutes ces richesses aujourd'hui font l'objet de convoitises de voisins proches et lointains, avec comme conséquence qu'il y a des zones d'insécurité, malheureusement, qui sont recensées notamment à l'est de la République. Des zones d'insécurité, malheureusement, qui sont aussi entretenues parfois par nos propres dirigeants. Et je crois que c'est ce qui explique un peu les difficultés qu'on a à leur trouver des solutions définitives à partir du moment où nous avons à l'intérieur même du gouvernement, même des forces armées, des complices qui sont très actifs directement ou indirectement dans ces zones-là.
Freddy Matungulu, ancien ministre de l'économie et des finances de la RDC.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
47 morts, c'est le dernier bilan officiel des victimes des tueries de Yergou dans le centre-nord du Burkina. Des villageois aidés par des membres d'une milice de défense locale ont tué des dizaines d'éleveurs peuls et brûlé leur campement le jour de l'an en représailles suite à une attaque terroriste. Le président Kabore s'est rendu samedi et il s'est adressé à la population. Mais pour l'opinion, le président n'a pas été ferme. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
7 morts dans une attaque armée de présumés terroristes et plus de 40 civils poltués par des villageois Mossi en guise de représailles. Selon les témoignages, après l'attaque terroriste ce 1er janvier, les villageois et les Kogluwego, une milice d'autodéfense, ont pris d'assaut les campements de Liverpool. Des dizaines de Peuls ont été tués et leurs maisons incendiées. Le président du Faso Roch Kabore s'est rendu dans cette bourgade située à 200 km au nord de Ouagadougou.
La rencontre que nous avons eue avec la population visait à dire que rien, absolument rien, ne peut justifier cette violence meurtrière. Le Burkina Faso est un seul peuple. Nous sommes unis. Et notre pire ennemi, c'est le terrorisme. Nous devons éviter la stigmatisation. Vous avez 47 morts, des populations qui errent dans l'ensemble du village.
Lors de sa rencontre d'échange avec les villageois, les Kogluwego étaient bien présents par dizaines, la plupart avec leurs armes en bandoulière, devant le chef de l'État.
Bon, je ne sais pas si c'est une négligence ou bien ils sont au courant de ce truc-là.
Magloire Bazemo, un citoyen, dit ne pas comprendre l'attitude du gouvernement qui tarde toujours à réagir.
Parce qu'on ne peut pas commencer à abattre des gens comme ça, et ils sont tranquilles, ils n'en voient pas, ils ne déploient pas rien. Bon, on comprend pas quoi.
Pratiquement la même réaction. Fayali Sombier pense que le gouvernement doit davantage s'impliquer.
Chaque fois on dit que c'est toujours que c'est l'affaire de tous. Il faut que les premiers responsables s'impliquent dans ça. C'est vrai qu'ils sont impliqués, mais jusqu'à présent, on ne le sent pas. Et la situation ne fait que s'embraser.
Selon Aziz Dabo, secrétaire exécutif adjoint de la NAFA, nouvelle alliance du FASO, un parti d'opposition, il y a un laxisme des autorités et la situation sécuritaire a été politisée.
Ce fléau a pris vraiment le dessus. Toute une grande partie du territoire aujourd'hui est attaquée. Ça fait qu'on a l'impression que nos dirigeants sont dépassés par les événements. Ils viennent de décréter l'état d'urgence, une mesure que nous avions préconisée depuis un moment. Mais l'état d'urgence, en réalité, c'est bien. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement de cet état d'urgence? Aujourd'hui, ils doivent absolument réagir, dépolitiser la situation du terrorisme, travailler de telle sorte à ce que l'administration fonctionne dans ces localités-là, que les forces de défense et de sécurité aient les moyens nécessaires pour aller au combat.
À son retour de Yirgu, le président Kabore s'est adressé samedi nuit dans une adresse télévisée au peuple burkinabé. Il a annoncé une action judiciaire à l'encontre des auteurs de la tuerie de Yirgu. Mais les analystes pensent qu'il n'a pas pris de décision ferme. Beaucoup se demandent notamment pourquoi rien n'a été décidé concernant le sort des Kogluwego, dont plusieurs ont assumé la responsabilité de cette tuerie de Yirgu. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Cameroun, les avis divergent après la formation d'un nouveau gouvernement vendredi dernier. Les Camerounais rencontrés à Yaoundé sont notamment partagés quant au maintien de certaines personnalités dans l'équipe gouvernementale de Yaoundé, correspondance d'Emmanuel Jultap.
Après le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 au Cameroun, de nombreux Camerounais avaient demandé des sanctions contre les responsables de cet échec. Mais le président Paul Biya n'a pris aucune sanction contre les présumés responsables en formant le gouvernement le 4 janvier dernier. Alvin Henry Assembendi est membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Elle explique ce choix du président Paul Biya.
Nous, au niveau du RDPC, nous avons parlé de glissement, nous n'avons pas parlé de perte et de responsabilités n'ont pas encore été indiquées. Nous pensons que si commission d'enquête il y aura, on attendra les résultats et après les coupables paieront.
Un point de vue que de nombreux Camerounais ne partagent pas. Salomon, par exemple, est un jeune employé du secteur privé à Yaoundé. Pour lui, ce premier gouvernement d'après élection présidentielle du 7 octobre dernier ne répond pas aux attentes du peuple.
Vu le contexte dans lequel s'est déroulée les élections présidentielles au Cameroun, pour un début de mandat, l'option du réaménagement est véritablement frustrant. On a l'impression que certaines personnes dont le peuple voulait la tête sont restées au gouvernement. Ce qui donne l'impression aux Camerounais que finalement, il n'y a rien à attendre de cette nouvelle équipe.
Par ailleurs, aucun membre de l'opposition n'a fait son entrée dans ce nouveau gouvernement. Pas même le candidat du parti Univers lors du scrutin présidentiel d'octobre dernier. Cabral Libi a tout simplement décliné l'offre selon son directeur de campagne, Armand Okol.
Je vous confirme qu'il a été consulté à plusieurs reprises. Il a simplement rejeté pour deux raisons au moins. Quand on voit la manière avec laquelle le gouvernement fonctionne, on n'a pas le sentiment qu'on peut avoir les mains libres à implémenter sa vision à soi. La deuxième des choses, c'est qu'il est porteur d'un projet de société, ne cadre pas avec la manière dont les choses sont faites.
Le nouveau gouvernement du Cameroun compte plus de 60 membres. Il entre en fonction dès ce lundi, soit plus de 2 mois après la prestation de serment du président Paul Biya. Joseph John Nguté, Premier ministre, est un homme heureux. Quelques minutes après sa désignation, il a fait cette brève déclaration à la presse.
Quand le chef de l'État m'a convoqué, il m'a dit qu'il m'avait choisi comme son prochain Premier ministre. Évidemment, j'étais très ému, sachant que la tâche est vraiment difficile, c'est élevé, mais je vais continuer à donner le meilleur de moi-même pour que le chef de l'État soit satisfait de ma prestation.
Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Un paradoxe au Libéria, ce pays d'Afrique de l'Ouest possède l'un des plus bas tarifs d'accès à l'électricité dans le monde, mais plus de 60% de son électricité est volée chaque année, d'après la compagnie libérienne d'électricité. Les autorités ont lancé une campagne de répression généralisée des connexions illégales au réseau électrique. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
La vue d'un technicien grimpant sur un poteau électrique à Monrovia n'est pas un spectacle réjouissant pour la plupart des habitants de la capitale. Pour cause, selon la compagnie libérienne d'électricité, bon nombre d'entre eux volent le courant électrique, certains estimant qu'ils n'ont pas le choix. Christopher Wallace est entrepreneur.
Je ne peux pas dormir dans le noir. La raison pour laquelle les gens agissent de la sorte, c'est parce que la compagnie d'électricité est incapable d'élaborer des stratégies. Vous avez l'argent pour payer et suivre les procédures, mais chaque fois que vous allez voir les agents de la compagnie, ils vous disent qu'il n'y a pas de compteur.
Hélène Pokloko, entrepreneur aussi, en appelle à la tolérance de la part de la compagnie d'électricité.
Je n'ai pas d'électricité. Je dois compter sur mon groupe électrogène, mais je ne peux pas me permettre de tout brancher dessus. J'implore le personnel de la compagnie d'électricité de venir à notre secours. Nous allons à leur bureau tout le temps. S'ils pouvaient nous ravitailler en électricité, nous pourrions alors empêcher les gens de tripoter les lignes électriques.
Environ 12% de la population libérienne est en mesure de se procurer légalement l'énergie électrique. La compagnie d'électricité affirme que 60% de sa production est volée, ce qui se chiffre à environ 35 millions de dollars par an, une somme suffisante à la reconstruction du secteur de l'électricité. Sur son site internet, la Nationale de l'électricité a publié un avertissement sur les conséquences du vol du courant électrique. Son directeur général John Ashley affirme que la société a l'intention de prendre de nouvelles mesures.
Nous sommes en pourparlers avec le ministère de la Justice et nous espérons faire considérer le vol d'électricité pas comme un simple délit, mais plutôt comme un crime, et peut-être même le qualifier de sabotage économique, car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Une grande partie des infrastructures du Libéria a été détruite pendant la guerre civile entre 1989 et 2003. Les efforts de reconstruction ont été court-circuités par la chute des prix du fer et du caoutchouc, principaux produits d'exportation du pays. À cela s'était ajoutée une épidémie d'Ebola. Avec le soutien des États-Unis, le Libéria ambitionne de fournir, d'ici 2030, de l'électricité à 70% des habitants de Monrovia, la capitale.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait, retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sylvia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.